RFM.
Vous êtes sur Radio Orient. Merci de nous rejoindre. Le journal de 17h, Nadia Benchech. À la une de cette édition, au Liban, l'armée israélienne a mené plusieurs frappes sur la ville de Tyr, dans le sud du pays. L'une d'elles a touché un quartier résidentiel, faisant au moins 8 morts et plus d'une trentaine de blessés, selon les autorités libanaises. Nouvelle tension entre Paris et Israël après le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. C'est au tour de Bezalel Smotrich. Le ministre israélien des Finances et figure de l'extrême droite est désormais interdit d'entrer sur le territoire français. En France, l'affaire Liana, le Premier ministre a présenté ce mardi une première série de mesures pour renforcer la protection des enfants. Parmi elles, la perpétuité pour les violeurs en série et un délai maximal de 3 mois pour les enquêtes sur les crimes visant des mineurs. Bonjour. Au Liban, au moins 8 personnes ont été tuées, 32 autres blessées dans une frappe israélienne sur un quartier résidentiel de Tyr, dans le sud du pays. L'attaque est survenue peu avant. Un appel de l'armée israélienne a évacué l'ensemble de la ville et ses environs. Israël affirme préparer de nouvelles opérations contre le Hezbollah dans le sud du pays. Son armée affirme par ailleurs avoir tué un homme armé qui aurait infiltré son territoire depuis le Liban. Selon elle, il aurait ouvert le feu sur des soldats dans la région de Kiryat Shmona, dans le nord d'Israël, avant d'être tué. Le Hezbollah appelle les autorités libanaises à renouer des relations plus étroites avec l'Iran et à bénéficier de son soutien. Le mouvement pro-iranien estime que Beyrouth doit tenir compte du rôle de Téhéran dans le contexte des négociations régionales en cours. Cette déclaration intervient alors que les dirigeants libanais avaient récemment demandé à l'Iran de ne plus intervenir dans les affaires du pays. Nouvelle tension diplomatique entre Paris et le gouvernement israélien. La France interdit désormais l'entrée sur son territoire à Bezalel Smotrich, ministre israélien des Finances et figure de l'extrême droite. Paris lui reproche notamment son soutien à l'annexion de la Cisjordanie et à une recolonisation de Gaza. Cette décision s'inscrit dans une série de sanctions coordonnées avec plusieurs pays occidentaux. Les explications de François-Xavier de Calonne.
Oui, la France durcit le ton à l'égard de certains membres du gouvernement israélien. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, annonce l'interdiction d'entrée sur le territoire français de Bezalel Smotrich, ministre israélien des Finances et figure majeure de l'extrême droite israélienne. Paris lui reproche de promouvoir activement l'annexion de la Cisjordanie, la création de nouvelles colonies israéliennes dans ce territoire occupé et aussi de défendre l'idée d'une recolonisation de Gaza. Pour la diplomatie française, ces positions sont incompatibles avec la solution à deux États, une solution soutenue par la grande majorité de la communauté internationale. Bezalel Smotrich devient ainsi le deuxième membre du gouvernement israélien visé mesure après le ministre de la Sécurité nationale, interdit d'entrer en France depuis le mois de mai dernier. Dans le même temps, Paris annonce de nouvelles sanctions. Elles visent plusieurs responsables d'organisations de colons, ainsi que des colons accusés de violences en Cisjordanie. Des mesures prises en coordination avec le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Norvège. Cette décision intervient dans un contexte de fortes tensions en Cisjordanie. Les violences se sont intensifiées depuis le début de la guerre à Gaza. D'après les chiffres de l'autorité palestinienne, plus d'un millier de Palestiniens a été tué dans le territoire depuis octobre 2023. Israël dénonce ces sanctions et les considère comme une ingérence politique dans le conflit israélo-palestinien.
Et sachez que le Royaume-Uni avait appelé un peu plus tôt ses entreprises à mettre fin à toute activité économique ou financière dans les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. Londres estime que ces implantations sont illégales et que les colons violents ne doivent pas tirer profit des terres palestiniennes. Le gouvernement britannique juge également insuffisantes les mesures prises jusqu'ici par Israël pour lutter contre ces violences. Après 2 jours de tensions marquées par des frappes réciproques, l'Iran et Israël ont suspendu leur hostilité. Une accalmie fragile obtenue sous la pression de Washington alors que chaque camp continue de menacer de riposter en cas de nouvelle attaque. Dans le même temps, Donald Trump affirme que les négociations avec Téhéran sont entrées dans leur phase finale et évoque la possibilité d'un accord dans les prochains jours. Un objectif aux dimensions à la fois politiques, diplomatiques et stratégiques. Écoutez à ce propos l'analyse de Jean-Éric Brana, politologue et spécialiste des États-Unis.
C'est vrai que Donald Trump veut absolument un accord. Alors, il y a trois objectifs pour Donald Trump. Le premier, là, immédiat, après ses 100 jours de guerre, c'est de sortir de cette guerre. Il a été élu en promettant de ne pas entraîner les États-Unis dans de nouveaux conflits au Moyen-Orient. Or, depuis février, eh bien, c'est le contraire qui se passe. Et c'est une guerre coûteuse, risquée, politiquement très dangereuse. Et chaque semaine qui passe augmente le risque d'attaque, d'une flambée du prix du pétrole et puis d'une lassitude de l'opinion publique, voire d'un rejet. Trump sait que les électeurs américains, qu'ils soient MAGA ou pas, ne veulent plus ces guerres. Et désormais, ils ne les pardonnent plus. Le deuxième objectif, c'est d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Alors, c'est le cœur officiel des négociations. Washington exige la remise ou la destruction de l'uranium hautement enrichi et des limitations sur le programme nucléaire. Ça, c'est déjà ce qui était demandé avec le JCPOA et qui ensuite était redemandé avec cet accord déchiré par Trump. Ce serait pour Trump l'accord avantageux qui lui permettrait de sortir d'une guerre qui pourrait devenir permanente. Le troisième objectif, c'est d'obtenir un succès diplomatique personnel. Et c'est probablement l'aspect le plus important, parce que Trump aime les accords spectaculaires, et il veut pouvoir dire « Obama a signé un mauvais accord en 2015, moi j'ai fait le contraire ».
C'est un échec, serait perçu comme un reniement de cette promesse de non-interventionnisme, c'est ce qu'il avait affirmé pendant sa campagne, et cela aurait un impact bien entendu sur les élections de mi-mandat du 3 novembre prochain, ces élections particulièrement importantes pour Donald Trump.
D'abord, ce qui aurait un impact, c'est le prix du pétrole. Il cherche à avoir une baisse du prix du pétrole, c'est le point essentiel. Et le détroit d'Ormuz est l'artère stratégique du commerce mondial. Donc, chaque crise qui fait monter le prix du pétrole lui coûte en électeurs. Mais actuellement, depuis trois semaines, il est sur une baisse des prix aux États-Unis et bien sûr, il veut pouvoir ramener ce prix à moins de 4 dollars le gallon et si possible, même plus près possible de 3 dollars. C'est aussi l'image de faiseur de paix. Paradoxalement, Trump est perçu comme un dirigeant agressif désormais, alors que lui, il voudrait être présenté comme celui qui met fin au conflit. Là-dessus aussi, il peut y avoir un effet sur les midterms parce que, encore une fois, les Américains ne veulent pas de quelqu'un d'agressif à l'étranger, mis à part les MAGA qui le suivent sur absolument tout. Mais pour l'ensemble des Américains, c'est une autre histoire.
Jean-Éric Brana, politologue et spécialiste des États-Unis, invité de François-Xavier de Calonne dans Grand Angle ce soir après le point de l'actualité de 18h. Dans l'actualité de ce mardi au Kenya, un manifestant opposé à l'installation d'un centre de quarantaine destiné à des Américains potentiellement exposés au virus Ebola a été grièvement blessé par balle à la tête. Les faits se sont produits à Nanyuki, dans le centre du pays, lors d'une mobilisation contre ce projet. Les circonstances exactes du tir restent à ce stade inconnues. Au Sénégal, un maître coranique a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le viol de 28 écolière mineure dans une école coranique de Touba. Les faits remontent à 2023 et plusieurs certificats médicaux ont confirmé les violences subies par les victimes. Cette affaire relance le débat sur la protection des enfants face aux violences sexuelles dans le pays. La Somalie a apporté son soutien à l'arbitre Omar Hartan, refoulé à son arrivée aux États-Unis alors qu'il devait participer à la Coupe du Monde 2026. Les autorités somaliennes défendent son intégrité et regrettent l'échec des démarches engagées auprès de Washington et de la FIFA. Premier arbitre somalien sélectionné pour un mondial, il ne pourra finalement ni officier ni s'entraîner durant la compétition. L'actualité en France face à l'émotion suscitée par la mort de la jeune Liana. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté ce mardi de premières mesures pour renforcer la protection des enfants. Il propose notamment la perpétuité pour les violeurs en série et un délai maximal de 3 mois pour les enquêtes sur les crimes visant des mineurs. Ces dispositions seront intégrées au projet de loi sur la protection de l'enfance qui doit être examiné au Parlement en juillet. Les crédits consacrés à la lutte contre les violences sexuelles seront par ailleurs maintenus dans le budget 2027. On écoute le Premier ministre.
La première des choses, nous avons un projet de loi qui a déjà été discuté et validé par le Conseil d'État et le Conseil des ministres visant à la protection des mineurs, qui emportait déjà la plupart des réponses qu'un certain nombre d'entre vous, de manière transpartisane, avaient demandé de reprendre, je regarde la députée Santiago et d'autres, que nous avons donc repris. Ce vecteur-là, il va être inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le 15 juillet. Nous allons compléter ce projet de loi, va être rectifié par un Conseil des ministres qui aura lieu dans 10 jours, sur au moins 4 demandes qui nous semblent urgentes et qui correspondent malheureusement directement ou indirectement à l'affaire de la petite Liana. La première question, c'est évidemment l'alourdissement des peines. Je l'ai dit, mais ce sont les associations qui le demandent.
Allez, s'il vous plaît, on laisse le ministre terminer.
20 ans de réclusion criminelle pour les viols en série. Il vous sera proposé de débattre et de porter de 20 ans à la perpétuité pour les crimes sexuels commis contre les mineurs. Et madame la présidente de l'Assemblée, nous ouvrons la concertation pour aller plus loin que la seule question des crimes sexuels contre les mineurs, car je sais que c'est une demande qui émane d'un certain nombre de groupes transpartisans. La deuxième des choses, et ça répond très directement à l'affaire sur laquelle le garde des Sceaux vous a répondu tout à l'heure, nous encadrerons dans un quantum de 3 mois, un quantum de délai, de temps, qui permettra aux enquêteurs, qui obligera et les enquêteurs et les parquets d'effectuer les premiers actes d'enquête qui permet ou non d'emmener un présumé coupable à la garde à vue. En clair, ce sont malheureusement les instructions du garde des Sceaux par circulaire que nous allons vous proposer de transcrire dans la loi pour faire en sorte que le système soit beaucoup plus protecteur, beaucoup plus rigide. Ça répond très clairement, malheureusement, à notre actualité. La troisième chose, ce travail n'est pas consensuel, je le sais, mais il faut l'ouvrir, c'est le travail sur les prescriptions. Donc là, il y a un débat important, il faut le prendre avec beaucoup de précautions juridiques, beaucoup de précautions constitutionnelles, mais je ne veux pas fermer la porte à cette question des prescriptions, et donc j'ai demandé au garde des Sceaux et à la ministre Aurore Berger de vous réunir, de réunir les présidents de groupe, les responsables de texte qui sont engagés sur ces sujets, pour essayer de bâtir un compromis qui nous permette, dans le cadre de la lettre rectificative, d'avancer. Puis la quatrième chose, et c'est une absolue nécessité, vous le savez toutes et tous, c'est la question de la transparence des procédures. C'est la question des transparences des procédures pour les victimes, parce qu'on le voit bien, c'est un enjeu majeur.
Sébastien Lecornu, le chef du gouvernement. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Merci à Mohamed Al-Bezeri pour la mise en onde. Prochain rendez-vous de l'information, le journal en langue arabe dans un peu moins d'une 20aine de minutes. Merci de nous suivre.